explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
S'il est des terres particulièrement fertiles pour les légendes, l'Écosse en fait indéniablement partie. Toute une faune surnaturelle habite les lieux. Cavaliers sans tête, fées, fantômes, géants et autres bestioles fantastiques se côtoient joyeusement dans le folklore local. Mais dans ce bestiaire, il y a une créature qui, de son long cou, dépasse largement toutes les autres, le monstre du Loch Ness. Comment ce mythe qui a fait son nid au fond d'un lac écossais a-t-il grandi au point d'attirer des curieux du monde entier? Qui sont les chasseurs qui consacrent leur vie à traquer la bête lacustre? Et après quoi courent-ils vraiment? Parce qu'elle s'intéressait à ces questions, l'écrivaine Sonia Delzongle s'est rendue sur les rives du Loch Ness. Fascinée depuis toujours par les monstres et les marginaux, l'autrice de romans policiers est partie mener l'enquête sur les noires terres d'Écosse. Elle a voulu saisir l'esprit des Highlands et rencontrer les doudingues ou doux rêveurs, chasseurs de monstres qui ont placé Nessie au centre de leur vie. La romancière raconte son périple dans un livre intitulé « Sur l'île noire » qui vient tout juste de paraître aux éditions Paulsen. Cet après-midi, Sonia Delzongle nous emmène avec elle à travers les brumes sur les eaux troubles du Loch Ness. Et en fin d'émission, avec le passionné de nature Georges Fetterman, nous nous intéresserons à d'autres légendes, celles qui entourent les arbres de nos régions. Voilà pour le programme de cette émission, réalisée par Stéphanie Texier et préparée par Claire Tesser, avec à la technique Clément Vuillet. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
C'est son climat, surtout, parce qu'il y a tous les brumes qui descendent sur les montagnes. Et ça donne une atmosphère très bizarre. Ça donne la naissance aux légendes, comme ça, oui. Parce qu'il y a beaucoup des histoires des gens qui sont perdus dans les montagnes. Les gens ont passé dans les montagnes pour arriver autre part. Ils se sont perdus, ils ont vu les choses étranges qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Alors je crois que c'est comme ça que beaucoup de légendes sont arrivées.
Bonjour Sonia Delzongle.
Bonjour.
Vous êtes d'accord avec cette Écossaise au micro d'Anne Pastor que l'on entendait à l'instant. En Écosse, le climat, les nappes de brume sont propices à faire naître les légendes?
Complètement, et déjà, ne serait-ce que son accent et sa voix nous entraînent sur cette presque île. Je marque volontairement l'écart entre presque et île, parce qu'elle est quand même rattachée à l'Angleterre, mais c'est un univers tellement à part, finalement, de tout le reste.
À part, et d'ailleurs, dans votre livre, vous plantez le décor dès le début, vous arrivez de nuit par cette route qui part de Glasgow et qui vous emmène au fin fond de l'Écosse vers ce Loch Ness. Et vous plantez immédiatement le décor, l'ambiance s'installe. En plus, de nuit, ça aide.
C'est l'ambiance qui s'est plantée en moi, directement.
Décrivez-nous les lieux.
C'était incroyable. Donc, partant de Glasgow, voilà, en voiture, j'ai pris cette route qui s'est avérée ensuite être la plus dangereuse. C'est-à-dire que mon hôte, quand je suis arrivée, m'a dit « Oui, c'est la plus dangereuse d'Écosse ». De nuit, avec une pluie battante qui se transformait parfois en neige, une pluie verglacée, conduite à gauche, ce qui n'est pas mon quotidien. Et puis, ces masses noires de chaque côté de la route, déjà une ambiance un peu surréaliste, étrange, et des présences, comme des présences tapies dans l'obscurité, comme ça, éblouies évidemment par les phares. Et puis, donc, faire la route, effectivement, comme ça, sans la connaître du tout, ça met déjà dans l'ambiance.
Ces masses noires, voilà. Ce sont les montagnes qui les se
montagnes,
découpaient
tout à fait,
dans la nuit.
Oui, alors en fait, ce que je n'ai pas vu à l'aller, je l'ai vu au retour. Ouais. Voilà, c'était ce paysage absolument à couper le souffle de Glencoe Mountain, entre autres. Donc, je suis arrivée à Fort Augustus. J'étais hors du temps.
Ouais. Et d'ailleurs, dès que vous arrivez à Fort Augustus, qui est vraiment la ville qui est juste au bord du Loch Ness, évidemment, vous pensez au monstre et vous dites que vous sentez déjà son souffle humide se déposer sur l'herbe et dans les rues. Finalement, la légende a complètement façonné le paysage. En tout cas, quand on y va, on y pense.
Alors, même si on n'y pensait pas, eh bien, Nessie se rappelle forcément à nous, de par, déjà, j'ai pu le voir en plein jour, l'imagerie, qui est absolument incroyable. C'est un Lourdes, en fait, un mini Lourdes du monstre du Loch Ness. Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a plein, on vend plein de
d'effigies, voilà, de figurines, de t-shirts, tout. Ouais. Tout est Nessie. Ouais. Ils respirent Nessie, ils vivent Nessie, ouais. Bien sûr.
Alors, on va évidemment avoir l'occasion d'y revenir. Ce mythe, en l'occurrence, ce mythe du monstre du Loch Ness, ne date pas d'hier. Hein. Le premier témoignage, le premier récit d'un monstre qui serait apparu, ça date de quand ?
Ça date, si mes comptes sont bons, de 1500 ans avant nous.
Oui, c'est ça.
Dire, voilà, c'est un moine, Saint Colomba, ouais. Justement, qui aurait accompli une sorte d'exploit mystique sur le lac en sauvant un nageur qu'il aurait envoyé lui-même pour vérifier s'il y a bien un monstre, ouais. Puisque il y a eu un témoignage, un premier témoignage, et donc ce pauvre nageur, voyant le monstre lui foncer dessus, bon, à ce moment-là, Saint Colomba intervient et ordonne au monstre, c'est un peu la main de Dieu, ordonne au monstre de se cacher. Ouais. Et ce que le monstre a fait pendant plus de 1000 ans.
Oui, pendant plus de 1000 ans. Hein, parce que finalement, il y a ce premier témoignage, ce premier récit légendaire, 565 après Jésus-Christ. Voilà. Et puis, le monstre sommeille au fond du lac pendant près de 1000 ans et il réapparaît. Et ce que vous notez, c'est qu'il réapparaît à des périodes bien précises, souvent quand ça va mal, quand il y a besoin de peut-être se raccrocher à l'imaginaire, de s'évader du réel.
Tout à fait. Il a eu un soubresaut dans les années 20 et puis ensuite dans les années 30 surtout, au moment de la Grande Dépression. Qui a laissé effectivement la Grande-Bretagne sur le flanc avec la misère, le chômage, des choses extrêmement dures. Bon, la période pré-guerre mondiale aussi. Et les gens, alors je dirais, ont besoin de se raccrocher à quelque chose qui leur apporte une évasion. Ils ont besoin de rêver et comme c'est vieux comme le monde, on aime se faire peur aussi. Ouais. Et ce qui fait rêver, c'est le mystère.
Et alors, il y a dans votre ouvrage, vous passez en revue un peu, alors entre canulars, parfois il y a les gens de bonne foi, il y a le canular avec la fameuse photo hein, qui pendant longtemps est restée, enfin les auteurs prétendaient que c'était une vraie photo, la petite photo où on voit de loin la silhouette du monstre avec son long cou. Bon, il a fallu attendre 1994 pour que sur son lit de mort, le médecin à l'origine du canular avoue que c'était un petit objet en plastique. Vous racontez par contre des fois des gens ont vu de bonne foi, c'était des éléphants d'un cirque qui venaient se baigner dans ce lac, et puis avec les trompes au loin, on a cru voir enfin le monstre. Et puis, en 1960, vraiment des vrais bureaux d'investigation se créent pour partir sur les traces de ce monstre qu'on ne pense pas que légendaire. Donc, ça va loin hein, quand même, cette histoire.
C'est, je dirais, la plus grosse enquête de tous les temps, puisqu'il y a eu effectivement la création en 61 de ce bureau d'investigation du Loch Ness, un peu le FBI du Loch Ness, fondé par Peter Scott, David James, et puis auquel est venu se greffer ensuite Constance White, donc qui était une femme, un médecin. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes hein, parmi ce que j'appelle les marginaux du Loch Ness, les rêveurs du Loch Ness. Plus tard est arrivé Steve Feltham, qui lui n'a pas été membre évidemment de ce bureau, mais il a tout plaqué parce que à l'âge de 7 ans, il est venu au bord du Loch Ness avec ses parents et il y a eu quelque chose qu'il a ressenti, une puissance, une force qui ne l'a plus jamais quitté. Ouais. Il a quand même fait sa vie, mais après, ça l'a rattrapé, il a tout quitté et il est venu s'installer sur les bords du Loch Ness vers Dawes.
Ouais, on aura l'occasion de recroiser sa route. Et puis dans nos journaux, le monstre refait surface de temps en temps, souvent quand l'actualité n'est pas très dense et avec plus ou moins de sérieux.
Nous vous avons parlé hier du monstre du Loch Ness.
Une prime de 1 million de livres est offerte à qui rapportera le monstre du Loch Ness. Oui, vous avez bien entendu, ce sont les distillateurs d'un whisky écossais qui ont lancé cette grande campagne de recherche.
C'est vraisemblablement parce que pendant 3 jours de suite, il ne se passe habituellement pas grand-chose, qu'un grand journal dominical a fait réapparaître le fameux monstre du Loch Ness. Nessie était le 10 juillet dernier apparu pendant 54 secondes exactement aux yeux de trois membres de l'expédition.
Un savant américain vient d'arriver au bord du Loch Ness avec un sous-marin de poche, le fameux sous-marin jaune.
Le premier résultat de leurs travaux leur avait même permis de conclure que Nessie était de la race des plaisirs si au sort, qu'il vit en famille. Vraisemblablement, il a quatre compagnons.
Un monstre qui, selon l'hypothèse d'un autre savant, ne serait qu'un gigantesque concombre de mer, à moins que ce ne soit un morse géant.
Enfin, le monstre aurait une tête gracieuse, petite, d'une trentaine de centimètres, les yeux entourés d'une substance fluorescente, le tout surmonté de deux jolies petites antennes.
Le sous-marin est équipé d'une pince articulée avec laquelle son capitaine, Don Taylor, espère rapporter un morceau de peau du monstre.
Vraisemblablement, le malheureux Nessie tourne encore tout seul au fond de son lac.
Maintenant, le concours est lancé. Il y aura quand même des lots de consolation pour ceux qui auront réussi à photographier le monstre. Un double scotch quotidien jusqu'à la fin de leur jour.
Ici Londres, à vous Paris.
Il y a tout un folklore hein, autour du monstre du Loch Ness, même en marketing. Vous le dites dans votre ouvrage, hein, les monstres révèlent les rêveurs comme les cupides. Certains flairent les bonnes affaires pour faire de l'argent avec ce monstre. Mais Sonia Delzongle, ce n'est pas ça que vous étiez venue chercher. Hein. Vous, c'était vraiment le mythe. Comment des gens décident de tourner toute leur existence autour d'un mythe.
J'ai voulu, moi, plutôt me mettre dans la peau de... peut-être une enquêtrice, mais surtout quelqu'un qui a une quête à faire et qui est dans cette attente, comme ces rêveurs aussi du Loch Ness, j'appelle les rêveurs du Loch Ness, les soldats sans victoire, puisque je compare ça aussi aux soldats Giovanni du désert des Tartares, l'attente qui, en fait, est évidemment l'expression d'un rapport étroit à la mort, déjà à la vie, évidemment, et puis à la nature. Puisque, bon, les mythes, comme l'a dit cette écossaise au début, viennent, la plupart, des forces de la nature, de ce qu'on ne comprend pas, de l'inconnu. Alors moi, je n'ai pas vécu là-bas, je ne suis pas restée des mois, mais j'ai senti, au fond de moi, vraiment, dans mes tripes, ce qui a pu les saisir.
Ouais, parce que vous étiez venu ressentir, éprouver ces paysages uniques de l'Écosse. Vous allez nous raconter votre voyage et les rencontres que vous avez faites le long des rives du Loch Ness. La romancière Sonia Delzongle nous emmène bivouaquer dans les brumes de l'Écosse, là où est né le plus célèbre des monstres.
And the boys, just the girls with the curls in their hair, while the shouted men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
realize where you're gonna go, where you're gonna go, where you're gonna sleep tonight. And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you're gonna go, where you're gonna go, where you're gonna sleep tonight.
This is Life, c'était Amy MacDonald sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un l'a vu, cette bête dont vous parlez?
Elle est terrible. Quelquefois, le soir, quand le vent vient du large, on l'entend. Chut! Écoutez! C'est la bête! La bête!
Voilà votre souper, c'est...
Oh là 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 là, tout ça est bien mystérieux et assez inquiétant, j'en conviens. Mais dès demain, c'est décidé, j'irai à l'île Noire.
L'île Noire, aventure de Tintin qui se déroule en Écosse, bien sûr. Il s'agissait de l'extrait d'une adaptation en feuilleton radiophonique datée de 1961. Notre invitée, Sonia Delzongle, vient de publier un livre aux éditions Paulsen dans lequel elle raconte son périple en Écosse autour du Loch Ness. Et vous avez choisi, Sonia, d'intituler votre ouvrage « Sur l'île Noire ». C'était évidemment en référence à l'album de Tintin. Pourquoi ce clin d'œil ?
Parce que Tintin, c'est mon enfance aussi. J'ai un petit peu, comme ça, un esprit reporter, ouais. Comme lui, il m'a embarqué. Et voilà, c'est sur l'île Noire, clin d'œil aussi. J'aurais pu l'appeler Slow, ce livre, parce que déjà un voyage un peu hors du temps, un temps suspendu en tout cas. Et puis Slow, c'est ce qui se rappelle au conducteur,
ouais, sur la route,
sur la route, sur le bitume. Et ça m'a marqué parce que effectivement les Écossais roulent très très vite, et ce slow, à qui s'adresse-t-il? Ouais. Eh bien, je me le suis approprié en fait, ouais. Parce que si j'étais là-bas, c'était pour échapper à la vitesse, à notre vitesse, ce qui m'a justement plongé dans cette dimension incroyable de l'Écosse, de la nature écossaise, en fait. On dit effectivement que c'est une terre de brume et de mystère, bien sûr. Après, à quel degré chacun le reçoit? En tout cas, moi vraiment, ça a été une véritable rencontre, au-delà du monstre, au-delà de l'énigme, puisque je suis allée aussi... Bon, il y a évidemment des endroits mythiques qui entrent dans la légende, le château d'Urquhart, par exemple, les ruines, ces fameuses ruines. Il y aurait eu quelques apparitions du monstre là-bas. À chaque fois, je peux dire, j'ai manqué voir le monstre.
L'Écosse est le lieu de mythes et de légendes qui ne s'arrêtent pas au monstre du Loch Ness. Des histoires de fées, de cavaliers sans tête ou de géants. Vous avez croisé la route d'un de ces géants sur une île aux paysages incroyables qui vous ont particulièrement marqué, l'île de Skye.
Les Écossais la surnomment l'île des brumes. Mais en gaélique, son nom signifie « ailé ». Autant dire que Skye est prédestiné pour être suspendu entre la mer et les nuages. Une perle aussi majestueuse que déchiquetée, jetée dans l'Atlantique Nord, réputée être tout simplement la plus bluffante île d'Écosse.
Il n'y a rien de tel au Royaume-Uni, ni même ailleurs sur la planète. Ici, les lumières changent tout le temps. Et en mars dernier, je suis monté ici. Il y avait la neige. Et une lumière incroyable rendait la neige presque rose. J'ai pris ce jour-là ma photo préférée du Allman of Storr.
Le photographe écossais Nick Hanson, qui ne se lasse pas des paysages de l'île de Skye. Sonia Delzongle, vous avez aperçu le Allman of Storr en vous rendant sur cette île. On dit que c'est le pouce de ce géant qui dépasse.
Oui, alors j'ai pas seulement aperçu, j'étais presque au pied de ce vieil homme, plein d'une sagesse et d'éternité. En fait, Sky n'appartient pas à notre monde. Elle appartient au monde des fées, des elfes et puis des géants.
Décrivez-nous l'endroit, parce que c'est vrai que ça a l'air superbe. Certains films ont été tournés là, hein. Je crois que Alien, certaines scènes ont été tournées là. C'est un décor en soi, cette île de Skye.
J'aime le mot que je viens d'entendre, déchiqueté. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est géologiquement une très belle description, rien qu'en un seul mot. C'est un paysage éclaté aussi, martien. Je dirais parce qu'il y a des tons ocre, plutôt ocre orange, ocre rouge, plus martien que lunaire.
Ouais. Vous dites rougeoyant, tourmenté, basaltique, désertique, lunaire, volcanique. Vous êtes sensible hein, à cette énergie tellurique qui se dégage du lieu.
Oui, d'autres volcans ont provoqué vraiment des sensations qui étaient proches... J'ai perdu le nom de ce syndrome.
Le syndrome de Stendhal.
Le syndrome de Stendhal, merci. Tout à fait, c'était sur le volcan de la Soufrière. Je n'ai pas pu avancer, reculer, ni rien. Il y avait un jour blanc, le volcan de Santorin aussi, avec toutes ses forces. Voilà. Et Sky était différente parce que justement, il y a aussi ce qu'on ressent très fort là-bas, ces présences. Ces mille petites présences, comme des feux follets, comme ça, au détour.
Mais ça pose une question, hein, tout de même, que vous soulevez d'ailleurs dans votre livre, Sonia Delzong. En Écosse, il y a bien des endroits, dont cette île de Skye, où les paysages sont évocateurs, où les légendes sont au coin de tous les sentiers. Alors pourquoi? Et il y a plein de lochs aussi. Les lochs, ce sont à la fois des lacs ou des fjords où la mer s'avance, ce sont ces étendues d'eau. Il y en a de nombreux lochs en Écosse. Pourquoi est-ce le Loch Ness qui a dépassé tous les autres? Pourquoi est-ce là que la légende a le plus pris et a dépassé les frontières?
Alors effectivement, l'eau est très très présente sous forme de loch, de cascade, de torrent aussi. La piscine aux fées sur l'île de Skye. Le Loch Ness en Écosse, mais il y a d'autres lacs ailleurs dans le monde, notamment au Canada par exemple, le lac de Champlain, qui a son monstre, Champ. Étonnamment similaire, enfin avec une certaine parenté avec le monstre du Loch Ness. Mais le Loch Ness, qui a déjà une forme comme ça, tout en longueur, et son eau est noire. Ouais. Et là, je pense qu'effectivement...
Ça peut cacher n'importe quoi.
Ça peut cacher n'importe quoi. Ouais. Il est abyssal par endroits. Quand on voit ce qui se cache dans les abysses océanes, on peut se dire, oui, il y a peut-être ce genre de monstre.
Alors, certains auditeurs sont peut-être agacés que j'évoque ce monstre que sous la forme de légende ou de créature imaginaire. Après tout, il y a eu de très nombreux témoignages qui affirment l'avoir vu, ce monstre. En voici un aperçu.
Yes, I've seen the monster 5 times altogether during the years. A great black hump that's come out of the water with a great commotion all around it. And I've seen it go very, very fast.
Je l'ai vu 3 fois. J'ai vu une grosse bosse au milieu du lac et il allait très très vite dans un grand remous. Ce matin, je l'ai vu de l'autre côté.
Il y a 7 ans, j'ai vu le monstre du Loch Ness pendant 5 minutes. Un homme du village de Fort Augustus qui était inspecteur de la pêche a vu le monstre 9 fois.
A few years ago, I saw the monster.
Il y a quelques années, j'ai vu le monstre. J'ai même jeté une pierre sur lui. Quand on dit qu'il n'y a pas de monstre ici, on dit un mensonge. Je souhaite qu'aucune action ne soit faite en vue de le détruire. C'est l'attraction numéro 1 du tourisme en Écosse.
Prière de ne pas détruire le monstre. Le dernier témoignage date de 1966 et le monsieur avait été maire d'Inverness, la ville toute proche du Loch Ness. On comprend qu'il tienne à ce que le monstre existe, il le dit clairement pour le tourisme. Mais pour autant, Sonia Delzong, vous dites qu'il y a eu des milliers de témoignages. Certains ont été, pas authentifiés, mais disons jugés comme crédibles, en tout cas sincères de la part des gens qui les ont recueillis. Alors, On ne peut pas balayer d'un revers de main tous ces témoignages?
Non, par exemple, Constance White, qui a fait 10 ans de travail et a recueilli tous ces témoignages sur 10 000 témoignages, 3 000 ont été retenus comme fiables. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup d'élagage en même temps. 3000, ça reste énorme, ouais. Je trouve. Mais finalement, qu'est-ce que voir? Ouais. Parce que là, j'entends, j'ai vu le monstre. Mais voir, c'est quoi? On voit par quoi? Par notre imagination.
Ils sont sincères, mais ils sont sujets aussi à leur imagination.
Ils sont sincères, oui, il y en a qui ont sans doute réellement vu, et il y en a qui veulent voir aussi. Mais ils sont sincères également.
Ouais. Alors ce qui est frappant dans votre livre, c'est que parmi les traqueurs du monstre, ceux qui ont tout plaqué pour partir à sa recherche, souvent, eux, ne l'ont jamais vu. C'est-à-dire que, un peu à l'inverse de saint Thomas, ceux qui y croient le plus sont ceux qui n'ont pas vu. C'est frappant.
C'est exactement ça. Quelqu'un comme Steve Feltham, en 27 ans, il n'a pas vu l'ombre du monstre, et pourtant il y croit, dur comme fer. Il accorde beaucoup de crédit au témoignage.
Et vous allez faire une très jolie rencontre avec un vieil homme, un vieil écossais. Il est sur sa barque, sur le lac. Il vous appelle, il vous propose de faire un tour. Vous étiez venu pour ça, forcément, vous acceptez. Et alors, je ne sais pas si ça tient à vos talents de romancière, mais la façon dont vous décrivez cette rencontre avec ce vieil écossais qui est tout en ambiguïté, avec des propos très sibyllins. Vous vous demandez, est-ce qu'il a perdu la tête? Est-ce qu'il se paye la mienne? Parce qu'il souffle le chaud et le froid. N'empêche qu'il est là depuis des années sur ce lac et on ne sait pas vraiment à quoi il croit.
C'est un pilier également du lac, mais finalement, j'ai peut-être succombé à ça moi aussi. J'ai peut-être voulu voir un monde s'ouvrir à moi également. Effectivement, lui, bon, il y a une histoire, enfin, que je laisse découvrir dans le roman. Il a son histoire personnelle.
Oui, c'est ça. Parce que vous allez sympathiser avec lui et vous allez comprendre ce qui le rattache à à ce lac. Mais on ne va pas tout dire aussi, vous avez l'art de ménager le suspense. Vous pouvez quand même nous dire ce que vous avez ressenti sur ce lac. Parce que vous l'aviez vu depuis la rive, grâce à lui, enfin, vous glissez sur l'eau du Loch Ness. C'est différent, c'est autre chose.
Ça n'a rien à voir.
Pourquoi?
Parce que on est déjà naturellement. Je n'aime pas ne pas voir par transparence ce qui est sous l'eau. Et là, évidemment, j'ai été complètement prise par l'ambiance du lac sur cette eau insondable, sur cette eau d'encre parfois. Avec quand même des nuances également, des nuances d'un vert très foncé, et on se demande ce qui va se passer. J'ai eu l'occasion d'aller sur le fleuve Saint-Laurent. C'était quand même, je sais pas, c'était pas la même sensation, alors qu'on pouvait, notre zodiaque pouvait être retourné par une baleine. Et là, les monstres, entre guillemets, existent vraiment, on les voit et on les a vus, ces baleines, ces rorquals communs, émerger à 3 mètres de nous. Là, on les a vus. Là, sur le Loch Ness, le mystère demeure.
Ouais. Et puis il y a donc cet Écossais Williamson qui va vous inviter chez lui. Vous allez comprendre, on ne le dira pas, mais vous allez comprendre ce qui le rattache vraiment à ce lac. Votre livre n'est pas seulement le récit d'un périple en Écosse, c'est aussi une plongée dans la psychologie humaine, les questions existentielles les plus profondes. Vous allez nous raconter la suite de votre voyage, Sonia Delzongle, dans un instant. Vous êtes bien sur France Inter, le temps d'un bivouac dans les brumes du Loch Ness.
Qui te regarde ça ne les regarde pas.
C'était Regarde, Barbagallo.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Sur France Inter.
La chose la plus impressionnante que j'ai vue, c'était des remous. Un jour où les vagues venaient dans ce sens-là, quelque chose est allé à contresens, comme une torpille. Ça a fait des éclaboussures sur le dos. Quelque chose. Ça a duré moins de 10 secondes et c'est passé à travers. J'étais complètement soufflé. La raison pour laquelle je me suis installé sur les rives du Loch Ness, c'est parce que c'est le cœur du mystère. Si je voulais juste vivre dans un van au bord d'un lac, j'aurais choisi un autre endroit. Il y a des lacs beaucoup plus chauds ailleurs dans le monde où j'aurais pu m'installer. C'est ce lac qui me fascine. Tous les jours, il est possible que je puisse dire au monde entier, voilà une nouvelle preuve de l'existence de cet animal. C'est génial.
La voix du chasseur de monstres, Steve Feltham, qui vit autour du Loch Ness. Vous nous en avez parlé déjà dans cette émission, Sonia Delzong. Vous en parlez dans votre livre sur l'île Noire aux éditions Paulsen. Il le dit, être là, c'est être au plus près du mystère. C'est ça que viennent chercher ces chasseurs, ces profileurs de monstres.
Au cœur du mystère, effectivement. Ce que je relève, c'est qu'il dit une nouvelle preuve. Mais il n'y a pas de preuve. Et donc, déjà, il est vraiment...
convaincu.
Dans le, je dirais, cette force et cette volonté de croire. Voilà. Lui, oui. Lui, il est convaincu. Ouais. Même s'il n'a vu, justement, que ces mouvements dans l'eau qui peuvent être insolitons.
Oui, alors c'est quoi ?
Un soliton, c'est une onde solitaire.
Ah oui, d'accord. Ça pourrait être juste un remous lié au tumulte
tout à fait.
De l'eau. Et vous mettez en exergue dans votre ouvrage, au tout début de l'ouvrage, une citation de Steve Feltham. « Monstre ou pas monstre, ce n'est pas le plus important. En fin de compte, la seule chose que je voudrais qu'on retienne de mon expérience, c'est que si vous avez un rêve, aussi fou semble-t-il, ne le laissez pas s'envoler. » Il dit tout. Il est convaincu, mais en même temps, il n'a pas besoin de l'être.
Mais complètement, il est convaincu par ses rêves avant tout. Et les rêves, bon, c'est voilà, moi c'est ma devise. En fait, voilà, ce qu'il dit, c'est ma devise depuis toujours. Ne pas lâcher ses rêves, quels qu'ils soient. Les rêves sont faits pour être réalisés. Et d'une certaine façon, même s'il n'a pas vu le monstre, il a réalisé son rêve.
Ouais. Mais c'est un rêve au prix de quel sacrifice tout de même? Parce que cet homme, comme celui que vous avez rencontré, Williamson, ont tout abandonné, femme, travail, pour vivre autour de ce lac, pour vivre de rien. On peut remplir toute une existence avec l'attente, on peut remplir une existence avec l'absence.
Il faut demander à Giovanni, justement, soldat du désert des Tartares, de Dino Buzzati. Pour eux, ce n'est pas un sacrifice. Nous, nous le voyons comme ça. Et justement, ce qui est absolument une force aussi de leur part, c'est de nous faire voir que ce n'est pas un sacrifice.
Ouais. Et il nous renvoie aussi, hein, c'est parce qu'il y a toute une réflexion dans votre ouvrage, mais finalement on peut y voir une métaphore de l'absurdité de l'existence, parce que si on trouve que tout ce qu'ils font est vain, cette course perpétuelle après quelque chose qu'ils vraisemblablement qu'ils ne trouveront jamais, est-ce qu'on n'en est pas tous là dans nos vies?
C'est possible, bien sûr. Nous attendons quelque chose. L'espoir est une forme d'attente également. Et comme je le dis aussi dans mon livre, c'est un rapport finalement à la mort, bien sûr.
Alors la quête des chasseurs de monstres ne se joue pas uniquement sur le terrain philosophique et psychologique. Certains chasseurs ont une approche très scientifique. Un des derniers rebondissements en date a eu lieu en 2019. Des chercheurs néo-zélandais avaient effectué toute une série de prélèvements ADN dans le lac du Loch Ness. Et les résultats de l'étude étaient arrivés jusque dans les journaux de France Inter.
Pas d'esturgeon géant, pas de requin du Groenland, pas non plus de poisson-chat. Aucune trace génétique de ces animaux n'a été trouvée dans le loch. Mais parmi les 250 échantillons d'eau testés, les chercheurs ont identifié à plusieurs reprises des ADN qui appartiennent à des anguilles. Le monstre est-il donc une anguille géante? La possibilité était déjà évoquée dès les années 30. L'hypothèse colle en tout cas aux témoignages de plongeurs qui, ces dernières années, ont observé des anguilles aussi grosses que leurs jambes dans le Loch Ness. Tout à fait plausible pour Adrian Shine, qui a participé à la campagne de recherche cette année.
Les anguilles que nous avons mesurent environ 1 mètre de long, mais parfois, par mutation génétique, les espèces peuvent devenir gigantesques et au moins doubler de volume. Cela peut correspondre aux observations faites par certains témoins dans le loch, mais en revanche, ça ne colle pas avec les récits qui évoquent une grande tête hors de l'eau.
Après 86 années de spéculation, le mystère n'est quand même pas complètement résolu. Les chercheurs parlent d'une simple hypothèse. Voici d'ailleurs la conclusion de Neil Gemmell qui a conduit les études. Peut-être qu'il y a un monstre dans le Loch Ness, mais on ne l'a pas trouvé.
C'est une quête qui ne finira jamais. Même les scientifiques qui le cherchent laisseront toujours une petite porte ouverte pour continuer d'espérer, pour continuer de rêver.
Mais c'est la plus grande enquête naturaliste de tous les temps, ouais. Qui a sollicité tellement de domaines, la zoologie, l'ethnozoologie, l'ethnologie, la science comme...
La cryptozoologie.
La cryptozoologie, ouais. Oui.
C'est pas celle-là à laquelle vous pensez?
Non. Il y a la cryptozoologie, bien sûr, à laquelle appartient, de toute façon, le monstre du Loch Ness.
Ouais. C'est la recherche des monstres légendaires, on va dire, dont on n'a pas encore pu trouver l'existence.
Que la science ne reconnaît pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il reste dans la cryptozoologie, il ne passe pas dans la zoologie. Mmh. Mais la police scientifique, tout simplement, je cherchais. Ouais. Voilà. La police scientifique a aussi eu un rôle dans cette enquête. Et donc là, ce qu'a fait cette équipe, c'est vraiment une grande mobilisation de temps, d'argent, un travail. Et je trouve que c'est la plus grande reconnaissance, ouais, finalement, qu'on puisse avoir envers Nessie.
Ouais. Alors il y a ce monstre, hein, entre science, fiction, littérature. Et puis vous, évidemment, la romancière, dans votre ouvrage, vous revenez sur d'autres monstres mythiques parce que vous les aimez, ces monstres. Et c'est vrai que finalement, ils sont nombreux dans la littérature, du Yeti au monstre de Jules Verne. Vous en évoquer quelques-uns.
Oui, et également dans Le Monde perdu, oui, de Conan Doyle. Donc ce personnage avec jeune journaliste qui part sur les traces de ce monde perdu où il y a des animaux préhistoriques, parce que c'est ça aussi qui nous fascine, je pense. C'est une cohabitation qui n'a pas pu se faire. C'est-à-dire qu'il y a eu des monstres sur Terre, oui, qui étaient bien réels, dont on a des fossiles, des ossements, etc. Et moi, j'ai toujours été fascinée. Mm-hmm. J'adorais aller dans les musées d'histoire naturelle. Et puis, il y a des monstres plus abstraits. Et puis, voilà, des monstres de légende comme King Kong aussi, oui, Bigfoot, la Chupacabra. Oui. Voilà, chaque pays a besoin, oui, aussi la bête du Gévaudan, bien sûr, et les vampires.
Oui. Oui, on sent que vous les aimez. Hein. Vous avez tout ce bestiaire en tête.
Oui, oui.
Sonia Delzongle, est-ce que votre voyage en Écosse vous a ou va vous inspirer des prochains romans? Évidemment, vous êtes romancière, auteur de polars, de thrillers. L'Écosse, c'est un joli décor. Alors, ça a déjà été fait. Est-ce que vous vous jetterez dans les eaux troubles écossaises?
Pour l'instant, je ne pense pas écrire sur l'Écosse ou un thriller qui se passerait là-bas. Ça m'a inspiré tellement autre chose.
Ouais. Est-ce que vous avez besoin de voyager pour être inspiré? Parce que certains de vos précédents romans, je pense à Boréal, on se trouve au Groenland, Cataracte, vous nous emmenez dans les Balkans, vous avez un personnage récurrent, hein, une profileuse, Anna Baxter, qui elle vit à New York. On a l'impression que votre terrain de jeu, c'est la terre entière. Vous voyagez autant que vos personnages?
Je voyage beaucoup. Oui, j'ai beaucoup voyagé, j'espère pouvoir le faire encore. Mais dans mes livres, il n'y a peut-être que Dust, finalement, qui a été inspiré, enfin, toute proportion gardée évidemment, d'un vrai voyage, un voyage en Afrique. Et après, ce que j'ai fait, en fait, par exemple, Cataracte, Serbie du Sud-Est, évidemment, je connais la Serbie, ouais, ma mère en est originaire, mais les Balkans, ce coin-là des Balkans, je ne connaissais pas, et j'y suis allée pendant que j'étais en train d'écrire, mais j'avais presque terminé, en fait. Et je suis allée à la rencontre de mes personnages. Ouais. New York, également. Anna Baxter vit à Brooklyn. Ouais. Je ne connaissais pas du tout New York avant. Boréal, je ne suis jamais allée au Groenland, ouais, voilà. Mais c'est encore une fois la force de la narration et de l'écriture.
Donc vous avez imaginé ces lieux avant de les traverser pour certains, et même, oui, certains que vous n'avez pas encore traversés, comme le Groenland.
Tout à fait.
Et vous préférez dans cet ordre-là, vous n'avez pas eu besoin du réel pour allumer votre imaginaire?
Non, je crois que le réel, au contraire, aurait amené peut-être une pesanteur, ou en tout cas m'aurait enlisé dans quelque chose.
Merci Sonia Delzongle.
Merci.
On peut lire sur L'Île Noire aux éditions Paulsen le récit de votre voyage en Écosse. Et je signale aussi que votre dernier roman s'intitule Le Dernier Chant aux éditions De Noël. Alors c'est une histoire avec des animaux retrouvés morts, frappés par un mystérieux mal, hein, à la surface du globe. Un mystérieux mal qui menace aussi la survie des humains. Une sorte de thriller écologique.
Oui, si on veut vraiment résumer, c'est une synthèse, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fameux hum, le fameux bruit.
Le fameux bruit
que tout le monde n'entend pas.
Et qui est à l'origine, ouais, des...
On ne sait pas. On ne sait pas, justement. Mais voilà, je précise quand même qu'il ne s'agit pas d'un énième ouvrage sur une pandémie. Voilà, c'est tout à fait autre chose.
Merci, Sonia Delzongle, d'être passée par notre bivouac.
Merci à vous.
Restez avec nous dans un instant. Nous allons nous intéresser à d'autres légendes, celles qui entourent les arbres de nos régions, avec un passionné de nature, Georges Fetterman.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois. Thank you.
C'était Pomme qui chantait les séquoias sur France Inter dans le temps d'un bivouac. La programmation musicale de cette émission est signée Valentine Chédebois.
Il était une fois un chêne biscornu dans un petit village cauchois. Un arbre devenu si fragile qu'une armature de fer et de bois le tenait debout.
Il a quel âge ?
Ah ben je m'en rappelle plus. T'as dit mais...
1200 ans.
1200 ans.
On dit que François 1er aurait pique-niqué sous son feuillage, que 40 enfants se seraient réfugiés en son sein. À l'ombre du vieil arbre naissent toutes sortes de légendes.
Il y a un ermite qui a vécu dedans.
Oui, qui a vécu dedans.
Qui s'était caché.
Puis il y en a un curé qui a dû être enterré à l'intérieur du chêne.
Bonjour Georges Fetterman.
Bonjour.
Vous êtes un passionné de nature. Dans quelques jours paraîtra votre livre Arbres, mythes et légendes aux éditions Artemis. Un livre dans lequel vous présentez l'histoire d'une soixantaine d'arbres à l'origine de légendes et de mythes. La plupart sont des arbres de nos régions. Et vous ouvrez votre livre avec ce fameux chêne d'Allouville, Bellefosse, en Seine-Maritime. Voilà bien un arbre mythique, pour bien des aspects hein, d'ailleurs, Georges Fetterman.
Oui, c'est un arbre qui a au moins 1200, 1300 ans, et puis qui où se mêlent les légendes et les histoires. Il aurait été sauvé parce que quelqu'un avait cloué un panneau au moment de la Révolution, marqué « Temple de la raison ». Et il semble que ce soit ça qui ait sauvé l'arbre, parce qu'il contenait des chapelles, donc c'est un symbole religieux, et il contient toujours ces chapelles.
Ouais. Deux petites chapelles à l'intérieur de cet arbre creux.
Ouais. Ouais. Ouais, avec un escalier entre les deux.
Ouais. Et dans quel état de santé se trouve-t-il cet arbre ? En plus, les gens viennent le visiter avec ses chapelles à l'intérieur.
Absolument.
Il tient le coup ?
Absolument. Il est en pleine forme. Il y a quelques années, j'aurais pas dit ça. Il a été sauvé par Robert Bourdu, qui est l'ancien président de notre association. Et l'arbre va de mieux en mieux. Il fait des petits, à 1200 ans, il fait des glands. Et il y a toute la partie gauche qui est bien vivante. Il se porte de mieux en mieux. Alors avec l'aide des hommes,
hein,
il est soutenu, étayé. C'est un cas particulier, c'est une histoire, une légende. Donc il a besoin de notre aide.
Ouais, l'idée de votre ouvrage, Georges Fetterman, c'est de montrer à quel point les arbres, en tout cas certains d'entre eux, sont vraiment enracinés dans l'histoire des hommes. Certains arbres sont à l'origine de jolies traditions. Vous parlez des arbres à danser. Qu'est-ce que c'est ?
Ouais, c'est dans l'est de la France et puis en Allemagne, en Autriche, en Belgique, des arbres où on se réunissait. Et certains relancent cette mode, je pourrais dire, de danser au premier étage de l'arbre. Un petit mot là-dessus.
Ouais.
On pense que les cordiers, ceux qui fabriquaient les cordes, utilisaient les tilleuls pour tendre leurs cordes, vous voyez, en les tournant, ouais, en les torsadant, pour qu'elles puissent bien sécher. Et puis ça formait une sorte de, je sais pas, je compare ça à un ring un petit peu en haut. Et ça a donné l'idée que quand les cordes étaient bien sèches, on dansait pour célébrer l'événement. Et petit à petit, ce sont devenus des arbres à danser. En Allemagne, on dit Tanzlinde. On en a deux ou trois en France. Et c'est un bel événement que de voir les gens. Mais c'est vraiment au premier étage. Il y a des terrasses dans l'arbre.
Oui, c'est ça. Il y a une sorte d'estrade montée autour qui entoure l'arbre. Alors, certains arbres sont à l'origine de légendes parce qu'ils ont des formes un peu biscornues. Hein. On reste un peu dans l'univers dans lequel on était en Écosse tout à l'heure. Je pense au pin de Boulanges qu'on trouve bien en France. Hein. On n'est pas loin du Puy-en-Velay.
Ouais, c'est dans le Velay, les forêts, les monts du Forêt. où la tradition voulait qu'on exploite les arbres. C'est des bûcherons qui allaient exploiter les pins, des INS, pour les couper, et les pins se ramifiaient. Et après, ils vendaient le petit bois qui était coupé aux boulangers, les pains, pour faire du pain P-A-I-N-S, P-A-I-N, pour les fours. Ouais. Et donc, tous les 2-3 ans, on recoupe traditionnellement les arbres pour récupérer du bois. Et les arbres ont pris des formes extraordinaires, ils ont été oubliés pendant des années. Et ce qui est formidable, c'est que maintenant, des professeurs, des institutrices, instituteurs emmènent des élèves pour leur montrer les formes qu'ont pris les arbres et leur font inventer des nouvelles légendes à partir de ces formes qui sont nées d'un travail humain, là encore, mais qui donnent naissance à des légendes. Donc cette alternance histoire-légende, est très passionnante à l'échelle de la France. Et puis dans le livre, je cite évidemment des exemples dans le monde, mais bien connus, hein, les baobabs, les séquoias dont vous venez de parler, etc. Mais là, c'est vrai qu'on se concentre sur les arbres de France, il y a déjà beaucoup à faire.
Bah oui, restons encore un petit peu en France avec des arbres au cœur de superstitions, comme les arbres à nœuds. Ça consiste en quoi et où est-ce qu'on en trouve des arbres à nœuds?
Ah bah, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Moi, je connais un ou deux endroits, un endroit qui s'appelle Aizier, en Normandie, où c'est une ancienne léproserie, donc c'était plutôt du malheur, hein, ouais, qui s'est transformé en moment de bonheur, puisque comme ça sauvait des gens, petit à petit, les couples, les amoureux ont trouvé que c'était une bonne idée d'aller entortiller des branches à cet endroit-là pour que leur couple puisse vivre très très longtemps sans difficulté. Et aujourd'hui encore, moi j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, on voit des branches qui sont entortillées avec un petit nœud. Souvent, ce sont des noisetiers, hein, qui se prêtent bien à ce jeu-là. Et on voit les nœuds. Ouais. Alors, j'ai pas vu les statistiques sur les taux de divorce dans la région, si c'est efficace ou pas. Ouais. Mais en tout cas, la tradition, elle est bien vivace. Et les nœuds, ça tue pas les arbres.
Oui, c'est ça.
Ils arrivent à se ressouder. Ouais, ouais.
C'est ce qui est étonnant, c'est qu'on voit l'arbre à pousser, à grossir, et on voit ce tronc qui forme un nœud et qui continue de pousser et de grossir. Alors, au-delà de ces superstitions, il y a aussi des arbres que l'on rattache à des personnes de l'histoire de France. Et beaucoup de tilleuls sont rattachés à des noms qui ont marqué l'histoire, Georges Fetterman.
Ouais, alors il y a des classiques, hein, dans l'histoire de France avec les arbres. On retrouve toujours Henri IV, Napoléon et Jeanne d'Arc, qui a prié, je ne sais pas devant combien d'arbres elle a pu prier, mais il y a plusieurs tilleuls de Jeanne d'Arc dont on n'est pas absolument sûr que, vu leur âge, Jeanne d'Arc ait pu les voir, mais le lieu est repéré comme un lieu de prière où Jeanne d'Arc s'est recueillie, et il y avait un tilleul. Est-ce que c'est toujours le même qui est là? Moi, j'ai en tête deux endroits, un en Lorraine et un dans le Limousin, où on a des tilleuls de Jeanne d'Arc qui racontent l'histoire de France. C'est inépuisable. Alors, et parfois des histoires que tout le monde raconte, mais dont on n'a pas témoignage. Par exemple, tout le monde va parler du chêne de Saint-Louis, par exemple, où il rendait la justice. Moi, je l'ai jamais vu. Hein. Mais tout le monde connaît le chêne de Saint-Louis.
Ouais, mais personne ne sait où il se trouve.
Ah non, moi, je l'ai jamais vu. On en parle aux voies de Vincennes, près de Paris, mais et c'est sûr que Saint-Louis ne s'est pas recueilli près d'un arbre qui est là encore aujourd'hui, ça c'est certain.
Il y a plein d'autres histoires d'arbres à découvrir dans votre livre qui paraîtra dans quelques jours, Georges Fetterman. Il s'intitule « Arbres, mythes et légendes » aux éditions Artemis. Un grand merci à vous.
Merci.
À bientôt, au revoir. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast avec l'appli France Inter. Merci pour les messages que vous nous laissez sur notre page Facebook ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.